Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Destins Flottants, le podcast au sujet des croyances limitantes remises en question par chacune des personnalités inspirantes interrogées. Notez le podcast sur votre plateforme préférée et partagez-le autour de vous afin de favoriser sa diffusion. Si vous souhaitez également me soutenir financièrement, je possède une cagnotte Tipeee, T-I-P-3-E, Les Destins Flottants, afin de me permettre de transmettre encore plus d'inspiration. Merci et bonne écoute. Aujourd'hui, mon invité est coach dans un domaine particulier, l'amour. Qui ne s'est pas déjà posé un milliard de questions lorsqu'on a rencontré l'amour ? Ses articles et ses vidéos sont partout lorsqu'on émet des recherches dans ce domaine. Il est le premier en France à aider les personnes à mieux comprendre leurs relations amoureuses, la psychologie genrée et leurs mécanismes. Également pionnier du développement personnel en francophonie. Vous avez peut-être reconnu Alexandre Cormon. Salut Alex !
Salut Anaïs, merci pour la belle présentation, merci pour l'invitation, ça me fait trop plaisir d'être avec toi.
Avec plaisir. Donc je suis très heureuse de t'inviter sur ce podcast Alex, car en amour, la place des croyances est omniprésente et on est d'accord pour dire qu'elles peuvent saboter ou au contraire épanouir nos relations amoureuses. On va également remettre en question les croyances autour de la psychologie genrée. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, Alex. D'où t'es venue l'idée de devenir love coach ?
Écoute, c'est une bonne question et ça fait aussi partie d'une croyance. Parce que quand j'ai commencé, en fait, ma vie était basée sur le basketball. C'est ça qui rythmait mon quotidien depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Et à 11-12 ans, j'ai fait la rencontre d'un préparateur mental qui m'a en fait amené des exercices de programmation neurolinguistique, d'hypnose. Son objectif, c'était un peu de me renforcer au niveau de mon cerveau parce que j'avais une fausse croyance qui était que je n'étais pas le meilleur, que je n'étais pas assez bon, que les autres étaient toujours meilleurs que moi. J'avais beaucoup de petites peurs à l'intérieur de moi et faire un travail avec lui, c'est ce qui m'a aidé. C'est ce qui m'a permis aussi de mettre un pied dans le développement personnel, mais sans vraiment le savoir. Parce que quand tu fais du sport, en gros, tu as envie de pratiquer du sport. Je sais que toi aussi, tu étais une grande sportive. Mais voilà, tu as juste envie de faire du basket. Tu n'as pas envie d'aller voir le préparateur mental. Sauf que j'ai eu une blessure au genou à l'âge de 18 ans qui m'a contraint, entre guillemets, à me dire qu'il fallait que j'aie un plan B. Et donc, que j'écoute mes parents et que j'aille faire des études, un master en sciences humaines. Et donc, en faisant mes études, je me suis aperçu que j'avais eu des outils grâce à ce préparateur mental et grâce à ce coach que très peu de personnes avaient bénéficié. Et j'ai dit du coup à mes parents, je veux me lancer, je veux développer un blog sur les relations amoureuses et la confiance en soi. Et malheureusement, j'ai eu très peu de soutien. Donc là aussi, on a eu des fausses croyances en disant, non, mais tu peux pas te lancer, il faut que tu travailles, il faut que tu aies un CDI, voilà, il faut absolument que tu suives le cursus entre guillemets classique. Donc ce qui m'a amené à faire ce métier, en fait, c'est une situation. C'est-à-dire que j'ai aidé mon meilleur pote qui était dépendant affectif. Je l'ai aidé à restabiliser son couple, à avoir plus de confiance en lui quand il n'était pas avec sa chérie. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être un besoin. Donc, je vais écrire un blog, je vais me lancer à 200%. Et puis, je vais pas écouter ce qu'on me dit parce qu'on m'a dit que j'étais fou. Mais j'y vais, je fonce. Et je t'avoue que je suis tombé encore plus amoureux des relations humaines, du développement personnel, du travail justement sur les croyances, sur les neurosciences également. Donc, voilà ce qui m'a amené à faire ce métier. C'est une rencontre à l'âge de 11-12 ans avec un préparateur mental, une blessure qui m'a remis en cause mon avenir et surtout une aide apportée à un pote où je me dis, ce que je sais, j'ai envie de le partager et ça a commencé par un blog.
Et comment, à ce moment-là, tu as surmonté la peur que ça ne réussisse pas ?
En fait, tu vois, je me suis lancé sans vouloir forcément réussir. J'avais juste une notion de partage. Je n'avais pas une notion de résultat. Premièrement, parce que j'avais la chance de vivre du basketball, donc je n'avais pas de pression financière particulière. Deuxièmement, parce que c'était un projet qui était novateur pour moi aussi, donc j'apprenais tous les jours. Et troisièmement, je me disais pas « il faut que ». Je me disais juste « je vais partager ce que je sais, et puis je verrai bien où ça me mène, mais je sais que je prends du plaisir ». Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel projet, en se disant « il faut ». Et ces personnes-là peuvent s'écrouler un petit peu sous la pression.
C'est marrant que tu parles de ça parce que je suis en pleine construction de projet. Et parfois, je m'entends dire « attends, il faut que je réussisse ça. Attends, non. » Juste, détends-toi, tu vas rencontrer les bonnes personnes, ça va bien se faire. Non, c'est ça, en fait, c'est cette notion de plaisir. Je pense que quand on n'a pas spécialement d'objectif derrière, on le fait sans attendre de retour. Donc, on n'est déjà pas déçu. Et comme on le fait par passion, forcément, sans s'en rendre compte, on y met toute notre âme.
Et c'est très important ce que tu dis, parce que ça fait aussi un parallèle pour les relations, sans attendre de retour. Tu vois, dans les relations, on va parler d'une fausse croyance qui est quand même la plus grosse à mes yeux, c'est « je dois donner pour être aimé ». Mais en fait, quand je donne indirectement, notre cerveau, il va câbler pour recevoir en retour. Et si on ne reçoit pas exactement ce qu'on veut, ça développe de la peur, de l'appréhension. Mais du coup, c'est dans tous les domaines. J'accompagne des coachs, j'accompagne des entrepreneurs, des athlètes. Ils ont toujours un besoin de résultats et sinon, ça les frustre. À partir du moment où on arrive à dépasser ça, donc j'ai eu beaucoup de chance quand je me suis lancé parce que j'avais pas de pression et c'était vraiment par pur plaisir. Et donc à ce moment-là, comme on dit, les planètes sont bien alignées et tu arrives à vraiment développer des choses que tu pensais pas forcément croyables ou que tu ne t'y attendais même pas encore.
Alors après, est-ce que dans la construction d'un couple, socialement, il y a quand même, je me dis forcément, un moment des attentes et des besoins qui nécessitent d'être comblés. Donc comment faire la part des choses entre ne pas avoir des attentes au risque d'être déçu, enfin ne pas projeter sur l'autre, ne pas faire porter le poids d'attentes trop lourdes, mais à la fois d'être dans la construction sociale d'un couple.
C'est aussi une question qui est très importante parce que, tu vois, je me suis posé cette question pendant très longtemps à force de faire ce métier. Ça fait 15 ans que je fais du coaching et tous les jours je coach et tous les jours j'apprends. Et je m'aperçois d'une chose, c'est que quand on est dans la construction d'un couple d'une manière sociale ou sociétale, c'est-à-dire en répondant à des attentes qu'on a mais que les autres ont aussi pour nous, on est dans une phase où on a tendance à sauter les étapes ou à vouloir rentrer dans des cases. Donc la réponse à cette question, ça a été la définition des attentes. Je demande aux personnes que je coach de définir exactement ce qu'ils veulent pour qu'ils bâtissent les composantes du couple. Qu'est-ce que vous voulez exactement ? Et donc, à ce moment-là, en fait, on est dans la création du couple qu'on désire plutôt que dans l'attente de l'autre. Si je me mets en couple et que j'attends que l'autre veuille habiter avec moi, bah, je suis en attente, je peux aussi mal maîtriser mes émotions, je peux me sentir frustré, donc je vais devenir négatif. Et en fait, je vais très vite arriver à une rupture. À partir du moment où je me dis, bah, je vais prendre mon indépendance, je vais avoir mes propres projets, je vais les partager à cette personne-là, bizarrement, cette personne-là se sent suffisamment inspirée pour vouloir les partager avec moi. Donc, il y a cette notion de « je mets en place des actions moi personnellement, je suis au contrôle de ma vie » et le mot que je vais souvent utiliser dans ce podcast, à mon avis, c'est le mot « j'inspire ». C'est-à-dire « j'inspire la personne que j'aime à me rejoindre, à faire la même chose de son côté, mais à ce qu'on crée finalement une identité qui est le couple. Et c'est notre identité à nous. C'est pas en fonction de ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de regard des autres, de poids de la société. Mais qu'on peut limiter quand on est concentré sur qu'est-ce que moi je veux, comment je vais avoir une vie inspirante et comment j'amène mon ou ma partenaire finalement à me rejoindre dans cette direction.
Et là, les besoins seront comblés naturellement, si je comprends bien.
Exactement. Les besoins sont comblés naturellement. Il y a un processus de création qui se fait inévitablement parce qu'on me dit souvent comment je trouve l'amour, comment je trouve telle situation, enfin telle solution à tel problème. En fait, je leur dis, mais vous allez être créateur ou créatrice. C'est-à-dire, vous allez tellement développer quelque chose qui vous ressemble que vous allez pouvoir, vous, définir le couple qui vous importe. Et vous allez voir qu'il y a toujours, en fait, une adaptation, entre guillemets, de l'autre. Donc, c'est-à-dire que parce que je crée la relation telle que j'en ai envie, je me concentre sur le positif. Je me concentre sur ce que j'ai envie de dégager. Et donc, ça crée naturellement, comme tu l'as bien dit, une relation, un couple qui est solide.
D'accord. Alors justement, on va parler de toutes les croyances qui peuvent nous empêcher ou pas l'épanouissement de cette relation. Le plus couramment, on peut penser que l'autre pense comme nous, on peut s'accrocher à quelqu'un car on pense pas être aimé par quelqu'un d'autre, que dans une relation, on souhaite la même chose, que je dois lui donner de l'attention dès le début. Alors voilà, quelles sont selon toi les croyances les plus globales que tu remarques en coaching ?
Eh bien, la toute première, c'est celle, je vais rebondir sur ce que tu viens de transmettre avec le mot « donner ». Ça, c'est la grande croyance, tu vois. C'est-à-dire que on considère que notre valeur en amour dépend de ce que l'on va donner à l'autre. Donc, je rentre dans une dynamique où j'ai beaucoup envie de transmettre. Je vais faire des cadeaux, je vais donner du temps, je vais donner de l'attention, je vais m'investir, je vais régler les problèmes dans le quotidien de la personne que j'aime. Et indirectement, je vais me dire « bah ça, c'est la construction d'un couple. » Sauf que c'est à ce moment-là qu'on développe une dépendance, une obsession. C'est à ce moment-là également qu'on est dans une phase où l'autre peut se sentir étouffé et on n'en a pas conscience. Donc, la plus grande fausse croyance, c'est celle de considérer que notre valeur en amour consiste à donner, donner un maximum. Donc ça, c'est la première que je vais voir. Et la deuxième, en fait, finalement, croyance que je veux analyser, elle rejoint ce que tu transmettais par rapport au « on pense que l'autre est comme nous ». Et on part du principe que nos règles s'appliquent à l'autre ou que l'autre aura les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes règles, la même définition du mot « couple ». Alors que ça, c'est un énorme apprentissage. Dans les relations, il faut absolument analyser la personne qu'on a en face de nous pour comprendre quel est son langage, quelle est sa définition de chaque mot, comme le mot « les valeurs », « les sentiments », ce qu'il ou elle attend du couple, le je t'aime, c'est des mots qui sont très puissants, mais on n'a pas la même signification. Et ça, c'est une des deuxièmes, je dirais, c'est la deuxième grosse fausse croyance que je vais voir au quotidien.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que la construction d'un couple prend énormément de temps. Et que toutes les personnes qui partent sur un sprint, ben, ça s'éteint très vite en général, puisque, puisqu'on n'a pas pris le temps de faire ce travail, d'analyser la personne, en fait, vraiment d'apprendre à connaître la personne sans avoir cette attente de couple derrière. Et non, c'est pas évident justement de trouver le juste équilibre. Et je rebondis aussi sur ce que tu dis par rapport au fait de donner. L'avant-dernier épisode, j'ai interviewé Nicole Prieur, donc qui est hypnothérapeute et thérapeute familiale, et je lui ai posé la question de l'amour inconditionnel. Parce que tu vois, notamment, j'écoute Chloé Bloom, et Chloé, elle fait la différence entre l'amour troc et l'amour inconditionnel. Donc l'amour troc, c'est je te donne de l'attention parce que toi, tu me donnes de l'attention. Alors que l'amour inconditionnel, je vais te donner de l'attention sans attendre un retour, sans condition. Et Nicole Prieur, justement, me disait, pour moi, l'amour inconditionnel dans un couple, il est dangereux. Parce qu'il faut que les deux apprennent à donner, en fait. Si on se met dans une posture d'amour inconditionnel, déjà, on va mettre l'autre en dette énorme par rapport à nous et on lui fait porter le poids d'un amour infini. Et que dans un couple, en fait, l'amour inconditionnel, il ne peut pas vraiment marcher. Ça peut marcher dans une relation parentale, hein, de parent à enfant, mais dans un couple, à partir du moment où il est construit socialement, ça va être très très compliqué de se mettre dans cette posture d'aimer sans condition. En fait, c'est soi qu'il faut aimer sans condition, peut-être.
Eh bien, si tu me permets de rebondir là-dessus, c'est exactement ça. Alors moi, j'ai une philosophie qui est très spéciale, hein. On pourrait débattre, je l'admets totalement pour les personnes qui vont nous écouter. Je ne te tiens pas toute la vérité, mais j'ai une philosophie qui est très précise parce que ça fait 15 ans que je vois beaucoup de personnes qui souffrent. Tu vois, je pense que j'ai coaché comme très peu de personnes, si ce n'est personne dans ce monde, autant à avoir coaché dans les relations amoureuses. L'amour inconditionnel en amour, ce n'est pas ma philosophie. Ce n'est pas ce que moi, je vais proposer. Parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, on rentre dans une dynamique où on existe moins. Et notre nature humaine ferait qu'on va toujours tendre à donner à l'autre plutôt que de se donner à soi-même. Donc, ma philosophie, c'est tu te donnes de l'amour inconditionnel à toi et grâce à ça, tu peux inspirer, séduire, conquérir et garder dans un jeu de séduction ce qui va permettre d'entretenir ton couple et ne pas rentrer dans une routine. Parce que l'amour inconditionnel, on tombe très rapidement dans un dominant, un dominé. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est destructeur dans n'importe quelle relation. Donc, je rejoindrai un petit peu l'avis de Nicole, même si j'adore Chloé et que son message, il est très puissant. Moi, je suis pour l'amour inconditionnel envers soi-même. Et tu serais surprise de voir que peut-être 99% des personnes que je coach ne sont pas dans ça, même 100%. Parce que, et là, c'est l'une des plus grosses fausses croyances aussi, j'aurais dû y penser d'ailleurs, parce qu'on nous a dit, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est simple, c'est naturel, il suffit de s'aimer pour être heureux. Mais en réalité, non, parce qu'il faut déjà apprendre à se connaître soi-même, ensuite, il faut apprendre à connaître une personne qui est différente. Alors, si tu donnes de l'amour inconditionnel à ton ou ta partenaire, mais que tu ne t'autorises pas à t'en donner à toi-même, t'es dominé, c'est sûr. Ton couple n'existera que parce que tu donnes. Sauf qu'on sait que dans la nature humaine, on a tendance à profiter quand on a quelqu'un qui nous donne beaucoup ou quand on est dans une situation de pouvoir. On a tendance à profiter et à abuser. Donc, c'est pour ça que l'amour inconditionnel en amour, si c'est pas dirigé vers soi, personnellement, je le déconseille.
Oui, moi, je pars du principe qu'on peut pas donner ce qu'on n'a pas pour soi. Mmh. Tout simplement. Et donc, c'est ça, en fait, c'est d'inspirer l'autre à faire de même. Alors après, on peut, bien sûr, entrer dans une démarche d'acceptation de l'autre dans ce qu'il est. Mais dans ce cas, puisqu'on est amoureux de la personne, de toute façon, on va accepter ses défauts, on va accepter ses parts d'ombre comme ses parts de lumière. Et là, j'ai une question un petit peu sociétale. Justement, on a les populations plus âgées aujourd'hui vont se plaindre du fait que vous, les jeunes, aujourd'hui, vous vous séparez au premier conflit, comme si on ne pouvait pas accepter l'autre dans son entièreté. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ?
Alors, j'ai entendu cette phrase des milliers de fois, et sous forme de question, mais pourquoi pour nos parents et grands-parents, c'était plus simple ? C'est vrai que quand moi, je vois mes parents, ils ont été très heureux, entre guillemets, mariés ensemble, et mes grands-parents, pareil, il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas eu de séparation. Mais quand tu creuses et que tu poses des questions, tu te rends compte que dans ma famille, j'ai une famille qui est très spéciale, tu vois, qui est très ouverte d'esprit, aux quatre coins du monde. Tu vois, on a vraiment développé un esprit de famille très fort. Donc, ils ont tenu. Mais en dehors de ça, quand je posais des questions à des couples plus âgés, je me rendais compte que oui, on restait ensemble malheureux. On restait ensemble en souffrance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, peut-être que dans notre société de consommation, on ne se bat pas suffisamment. Mais je dirais plutôt, en fait, on n'a aucune compréhension de l'amour. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on n'a pas d'apprentissage. Donc, on part basé sur des émotions. C'est-à-dire que je me sens bien avec cette personne me fait vibrer, hop, je me mets en couple. Mais ça dure combien de temps ? Comme tu as dit, c'est un sprint. Le marathon, il tient jamais. Donc, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu trop laxiste sur l'apprentissage. Par contre, j'aimerais pas être à l'époque de mes parents et grands-parents, de me dire que je vais rester dans un couple où je suis pas épanoui, où j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, je peux pas me sentir moi. Je trouve que notre société, elle a évolué dans le bon sens à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être séparé que être mal accompagné, entre guillemets. Maintenant, il y a des façons d'apprendre l'amour et c'est pour ça que je me bats, entre guillemets, de par mon métier, parce que je considère qu'on peut être mais vraiment beaucoup plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque de nos parents et grands-parents quand on a un couple qui dure et qui a qui a la capacité de se renouveler surtout. Ça, c'est important.
Oui, puis c'est vrai qu'à l'époque, bon, on avait beaucoup la valeur de ne pas abandonner, de ne pas lâcher. C'était très présent, quitte à souffrir. En fait, c'était la valeur la plus haute, c'était de terminer ce qu'on a commencé. Mais que ce soit en amour ou dans toute construction, dans le travail aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dynamique. On apprend à lâcher prise et au contraire, le courage, c'est aussi d'abandonner et de laisser sa fierté de côté. Et de dire, bah voilà, ça m'a pas plu, je me suis trompée, je recommence. Mmh. Et ça, effectivement, je trouve que notre société, quand même, évolue bien en ce sens. Et même dans le couple. Mmh. Alors, justement, à l'époque, peut-être que c'est en train de changer, mais Hollywood et Disney nous donnaient quand même une vision de l'amour assez présente dans nos relations. Et ça a forgé beaucoup de croyances dans notre subconscient. Et notamment, on se rend compte que les femmes attendaient beaucoup d'être sauvées. Alors, comment évolue la vision de l'amour des femmes selon toi ?
Alors, c'est une bonne question et je pense que c'est difficile de déconstruire une croyance. Et tu as employé un mot qui est quand même très fort quand on parle de sauver, mais qui est réel. Moi, je vois au quotidien, c'est ma vie n'a pas de saveur. Grâce à cet homme, il va y avoir de la saveur. Quand on leur transmet une nouvelle vision au travers de mes vidéos, de mes articles, quand je vais leur dire non, aujourd'hui tu ne peux plus faire ça parce que tu donnes effectivement les pleins pouvoirs à cet homme, ton bonheur est dans ses mains, c'est lui qui détient les clés de ton bonheur, c'est plus possible. Eh bien en fait, c'est très difficile à déconstruire. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de mamans solo, il y a de plus en plus de femmes entre guillemets féministes aussi, il y a de plus en plus de personnes qui désirent aller dans une situation à l'équilibre. On n'a pas besoin d'être sauvé par un homme, mais il y a cette notion de petite cerise sur le gâteau. La problématique, c'est que moi, je me heurte tous les jours à cette phrase où on dit « oui, mais c'est compliqué ». Alors, tu vois, c'est compliqué effectivement de passer à l'action, c'est compliqué d'avoir les bonnes réflexions, c'est compliqué de changer quelque chose qu'on nous a mis comme programme depuis qu'on est tout petit. Par contre, je peux te dire que ça évolue dans le bon sens. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui évoluent vers leur indépendance personnelle, donc qui évite les relations toxiques, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même assez fort, et je m'en rendais pas compte, parce qu'on parle à tort et à travers des pervers narcissiques, mais il y a une raison. Moi, je vois des situations au quotidien, je me dis, ah oui, quand même, il y a vraiment, ça existe, quoi. Donc,
Je trouve que ça évolue dans le bon sens. Je pense que le développement personnel va faire beaucoup de bien pour continuer dans cette dynamique. Et pour toutes les personnes qui vont nous écouter, qui ont vécu quelque chose de toxique, j'ai envie de leur dire, je pense qu'il faut passer par là. C'est en fait, en tant qu'être humain, on ne remet pas en question les croyances limitantes tant qu'on n'a pas vécu quelque chose de difficile, de douloureux. Et c'est OK. Et quand j'ai ce discours, c'est vrai que je vois le visage des femmes que je coach qui changent, qui disent « Ah, bah finalement, bah, je suis pas nul, je suis pas bête en fait. OK, il a fallu que je passe par là pour aller vers mon bonheur. » Et c'est OK, c'est le cheminement d'une vie. On peut pas apprécier son bonheur quand on n'a pas vécu des difficultés. Ça, c'est d'une certaine façon logique ou naturelle. Donc voilà un petit peu. Donc moi, je suis plutôt content. Je suis fier de voir la société qui évolue, d'avoir aussi de plus en plus de leaders féminins. On a parlé de Chloé, Nicole, je ne la connais pas. Mais voilà, d'avoir des personnes qui sont dans des dynamiques à transmettre. Et je pense que les femmes sont de plus en plus ouvertes au développement personnel, plus que les hommes. Hein. Moi, je le vois. Bon, certes, j'ai un discours qui s'adresse beaucoup aux femmes, mais dans tous les événements et avec toutes les personnes que je côtoie, on voit de plus en plus de femmes qui s'intéressent au développement personnel.
Oui, on devient de plus en plus leader, actrice de nos vies. Yeah, exactement. Femme créatrice, souveraine.
Et c'est magnifique. Franchement, c'est magique.
Alors justement, on va parler un petit peu de la psychologie genrée. Donc, les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars. On se rend compte que les hommes en amour ont davantage besoin d'être challengés que les femmes, qu'en amour, nous avons constamment besoin de défis, c'est un peu ce que j'appelle l'amour trophée. Alors, première question, selon toi, pour quelles raisons ? Et deuxième question, est-ce un amour durable ? Et est-ce que cette dynamique nous permet véritablement d'aimer la personne ? Ou n'est-ce pas simplement aimer l'idée de l'amour ? Bon, je te laisse répondre à la première question.
Ouais, alors en fait, bon, moi je vais pas aller contre la science, hein. Ça a été prouvé scientifiquement que l'homme a un côté chasseur. On revient à cette histoire d'homme préhistorique qui devait partir conquérir l'animal pour amener à manger au foyer, et la femme qui est plus dans une énergie féminine de recevoir, de nurturer, de s'occuper des enfants, de gérer le foyer d'une certaine façon. On a eu cette image-là un petit peu, comment dire, depuis aussi notre plus jeune âge, d'une certaine dynamique. Donc pour te répondre, je ne peux pas aller contre la science. Je pense que la majorité des hommes, je dis bien la majorité, ont ce désir, ce challenge, c'est un trait de personnalité, de caractère que l'on va avoir et qui n'est pas négatif en soi, tu vois, qui n'est pas forcément négatif. Donc c'est là, je pense, la grande différence à ce niveau-là. Maintenant, je disais la majorité parce que je ne crois pas, comment dire, en la séparation des genres. Moi, je me suis aperçu que j'avais beaucoup d'hommes qui avaient un comportement féminin, beaucoup de femmes qui avaient un comportement masculin. Donc, je crois plutôt à la différence de personnalité. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui vont être plus dans le challenge, d'autres personnes qui vont être plus dans la notion de donner, de finalement de créer, de nurturer, de créer quelque chose de positif et tu vois d'avoir quelque chose de, ouais, une énergie plutôt féminine. Mais il y a des hommes qui ont des énergies féminines également. Maintenant, il y a des petites crêtes de caractère qu'on peut retrouver chez les hommes, comme cet esprit de challenge, tu vois. Et mais ça fait pas tout, quoi. Tu vois, je trouve que c'est un peu limité de ne parler que de ça. Comme les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, oui, dans l'idée on est différent, hein. Ça, on le voit, hein, physiquement très bien, mais on n'est pas si différent que ça, et certaines femmes peuvent avoir une énergie plus masculine et des hommes une énergie plus féminine.
Donc, voilà. D'accord, oui, parce que dans tes vidéos souvent c'est assez dirigé au niveau des hommes et des femmes, mais là tu nous expliques un peu plus.
Ouais, en fait ça a été un choix, mais qui ne fait pas de différence entre les hommes et la femme d'une certaine façon. C'est juste que je m'adresse à une situation spécifique. C'est-à-dire que 95% de mes coachings sont dirigés vers des femmes qui veulent conquérir un homme qui est justement dans le challenge et ne comprennent pas forcément cette situation-là. Donc, c'est mon choix d'avoir fait plein de vidéos sur ce sujet-là, mais j'aurais pu faire des vidéos sur d'autres sujets, tu vois. Donc, pour moi, en fait, je pense que c'est juste la notion de différence qu'il faut expliquer. Comment moi, je suis prête à m'engager dans une relation, ce qu'on vit, c'est d'extase pour moi. Comment lui peut ne pas trouver son bonheur dans ce que moi, je trouve excitant et génial. C'est ça que j'apporte, mais c'est pas forcément genré. C'est juste que j'ai décidé de m'adresser à un public, et c'est le public féminin qui se retrouve dans cette situation-là. Pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai 20% de personnes qui me suivent qui sont des hommes et qui me disent « Mais quand j'écoute ta vidéo, ça me ressemble. » Donc, c'est pas pour tout le monde, mais ça en fait partie. Il y a un pourcentage quand même.
Oui, effectivement. Et alors justement, pour cette notion de challenge, être un challenge lorsqu'on n'en a pas envie peut faire souffrir. Donc, quel est l'équilibre entre le naturel et le challenge, entre la séduction et l'amour?
Alors, c'est une très très bonne question. Si tu veux, moi j'ai la sensation qu'aujourd'hui on n'a pas le choix que de jouer avec les règles, tout simplement. C'est-à-dire que oui, j'ai des personnes qui me disent, mais Alex, moi je ne veux pas être un challenge. Je leur dis, bah très bien. Sauf que la personne que tu as en face de toi, elle a besoin que tu sois un challenge. Donc peut-être que c'est juste vous êtes incompatibles. Donc moi, je suis 100% d'accord avec finalement ta question qui dit, bah si tu n'as pas envie d'être un challenge et que ça te fait souffrir, ce n'est juste pas la bonne personne pour toi. Mais si à ça tu me réponds, c'est la personne que je veux, c'est lui que je veux dans ma vie, c'est elle qui me fait vibrer, dans ces cas-là, il faut que tu joues avec les règles de sa personnalité à elle. Et c'est là où c'est intéressant, c'est finalement les différents profils, les différents types de personnalités, c'est que bah on peut pas tout avoir. Voilà, on peut pas tout avoir. Moi, si vous voulez une relation avec une personne qui est évitante, bah, il faut apprendre à être un challenge, que ce soit un homme ou une femme. Et si c'est pas dans votre personnalité, mais que vous voulez être avec cette personne, ça s'apprend, ça se travaille, et c'est un apprentissage. Donc, c'est pas un changement de personnalité. On renie pas qui nous sommes, par contre.
Oui, alors Alexandre parle donc de la personnalité évitante. Il y a quatre typologies de personnalité, il me semble, donc le sécure, l'anxieux, l'évitant et le désorganisé. Et souvent, les contraires s'attirent, n'est-ce pas?
Effectivement, les contraires s'attirent, ce qui provoque des situations un petit peu difficiles à comprendre, à accepter, et finalement à intégrer également. Donc voilà, c'est la théorie des styles d'attachement. J'ai développé d'autres petits profils pour aller un petit peu plus loin, mais globalement, je pense que c'est l'évitant et l'anxieux qui vont s'attirer. C'est-à-dire que l'évitant a ce charisme, cette notion de nous faire vibrer, va être attiré par une personne qui va le nurturer, finalement, qui va l'accepter tel qu'il est ou tel qu'elle est. Sauf que, au bout d'un certain temps, on a toujours envie d'un petit peu plus et c'est là où les conflits peuvent arriver. Donc voilà ce que moi je vois dans 99% des coachings au quotidien.
Oui, d'ailleurs, est-ce que c'est pas quand même plus complexe que ça? Est-ce que c'est pas de nouveau mettre des gens dans les cases avec ces
Si.
quatre typologies? Oui.
Si, si, c'est très intéressant parce que la frontière, elle est mince entre l'évitant et le narcissique. Donc, oui, c'est ce qui est difficile en fait, pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est à la fois de trouver des exemples où les gens peuvent s'y représenter, donc être dans des cases, ça rassure d'une certaine façon, et en même temps ne pas rester que dans une logique de cases parce que ça explique pas tout, parce qu'on ne peut pas avoir tous les détails, parce que ça serait vraiment trop réducteur. Donc tu as 100% raison là-dessus.
Alors justement, dans cette notion de défi, le danger avec cette idée de défi et de séduction, c'est qu'on puisse aller voir ailleurs, parce qu'il y a plus de séduction avec une autre personne, alors qu'on aime profondément malgré tout la personne avec qui on est en couple. Donc comment apprendre à se connaître et à communiquer à ce sujet?
Eh bien, pour apprendre à se connaître, il y a deux questions qui vont justement essayer de mettre de côté les fausses croyances. La première question, c'est de quoi j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma relation? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et la deuxième question, c'est à l'inverse, qu'est-ce que je ne veux absolument plus dans ma relation? Qu'est-ce que je n'accepterai plus jamais? À chaque fois que je pose des questions, j'ai des réponses qui sont très larges. Par exemple, qu'est-ce que tu veux dans une relation? Je veux du respect. Je veux de la bienveillance. Quand je dis que c'est large, c'est que c'est pas assez précis pour notre cerveau. Donc, je demande toujours, OK, mais donne-moi un exemple précis de respect. Bah, j'ai pas envie d'avoir, je ne veux pas qu'une personne hausse le ton. OK, ça, c'est précis. Et donc, mon objectif, en fait, pour éviter d'aller dans des croyances limitantes ou pour éviter d'être dans une relation qui ne nous correspond pas réellement, c'est de se demander qu'est-ce que je veux concrètement, avoir des exemples précis, parce que notre cerveau va ensuite aller vers, naturellement, vers ce genre de personnes qui peuvent correspondre à nos besoins. Donc, ne pas rester en surface, parce que ça, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui, enfin, toutes les personnes que je coach, en tout cas. Et puis après, il y a ce deuxième point, c'est aussi de se dire, voilà, ça, c'est ce que je veux, mais en face de moi, j'ai une personne qui veut autre chose ou qui a une personnalité différente. Comment est-ce qu'on arrive à créer un pont entre ces situations? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepterai pas? Et vice-versa. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage, finalement. Mais pour revenir là-dessus, c'est que on peut très bien être avec une personne qui n'est pas comme nous, sans avoir peur de la perdre ou de le perdre, sans avoir peur d'être trompé, etc., etc. Pour ça, il faut connaître ses besoins, que la relation réponde à ses besoins et qu'on ait aussi chacun notre propre identité, nos propres envies également.
Et là, bon, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que ce ne serait pas projeter des critères trop nombreux sur la personne et donc de passer à côté d'une histoire d'amour?
Eh bien, écoute, disons que l'idée, c'est pas de projeter un critère, c'est d'avoir des attentes prédéfinies. C'est-à-dire, voilà, je sais ce que moi, je veux. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau, il dit, ben voilà, comment tu te sens? Très bien, va vivre ton histoire d'amour. Mais bon, au bout de quelques casseroles, on se rend compte que c'est pas comment on se sent qui bâtit une relation, mais plutôt dans l'apprentissage de la personne. Bah, l'idée, c'est que moi, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est bah, définis ce que toi, tu veux. Comme ça, tu perdras pas la tête quand t'es amoureuse. Tu donneras pas trop à une femme qui peut-être t'apporterait en retour. Donc, ça marche aussi pour nous, messieurs. Tu vas pas te retrouver dans une phase où tu donnes, mais tu reçois peu. Parce que t'as aussi mis ton cerveau sur ce que tu veux recevoir. Et là, si tu veux, pour moi, Naïs, c'est une énorme fausse croyance qu'on est en train de déconstruire. C'est que finalement, pour être heureux en amour, bah, plutôt que de demander ce que je dois donner à l'autre, qu'est-ce que l'autre veut, c'est de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que moi, je veux? Et là, on me dira, oui, mais Alex, moi, j'ai pas envie d'être égoïste. Il faut faire la différence entre aller chercher ce qui est important pour nous et être égocentrique. Être égocentrique, c'est je ne pense qu'à moi, je m'en fous de l'autre. C'est pas ça. Là, vous restez qui vous êtes, c'est-à-dire une très belle personne, sauf que vous intégrez une nouvelle, finalement, vision de l'amour avec une petite étape qui consiste à « je veux recevoir ». C'est important pour moi de recevoir de l'amour et c'est ce qui apporte le plus de résultats à mes coachés. C'est assez troublant d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est vraiment d'apprendre en profondeur à connaître ses besoins et ses envies. Et ça passe, parfois, ça peut passer par une période de désert. Je sais que quand j'en parle avec mes amis, tous mes amis qui sont passés par cette période de désert, ils en ressortent mais tellement grandis du point de vue de la connaissance de soi-même. Et aujourd'hui, parce qu'on parle toujours de nos états d'âme en amour avec nos amis, mais quand j'ai des amis qui sont un peu perdus là-dedans et qui enchaînent les start and stop, et je leur dis toujours, mais si t'as essayé de rester sans relation pendant un bon moment, rien du tout. Ah ouais, mais non, c'est compliqué quand même. J'aime bien ça. Je dis oui, mais en fait, si tu veux vraiment savoir ce que tu veux et te connaître toi, je pense qu'il faut enlever l'autre du paysage pendant un certain temps. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Eh bien, moi, je suis passé par là aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'étais dépendant affectif et il a fallu pendant un an et demi que je n'ai rien. C'est-à-dire que je pouvais aller en boîte de nuit, je n'allais même pas draguer, je ne récupérais pas de numéro, je n'avais pas de bisous. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais en fait, je suis heureux. Tu vois, je suis heureux avec moi-même. Donc, quand je vais rencontrer une femme, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais j'ai bâti mon gâteau. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, comme tu le disais, on a tendance à vouloir être sauvé par l'amour. C'est-à-dire qu'on ne se suffit pas à soi-même, on n'est pas épanoui, et l'amour va être la solution à tous nos problèmes. Sauf que du coup, on remet notre bonheur dans les mains d'une autre personne, c'est quelque chose qui risque quand même d'être compliqué. Donc, ce que tu dis, pour moi, c'est essentiel. Alors après, un an et demi, 2 ans, 2 mois, 3 mois, 4 mois, la durée n'est pas fixe, mais le fait de se dire à un moment donné, mais en fait, attends, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux, bah, c'est quand même un gros soulagement parce que c'est pas ce qu'on nous a dit depuis notre plus jeune âge et c'est pas comme ça qu'on a aussi bâti ou visé, une relation amoureuse, quoi. Jamais on a vu ça.
C'est le fait de ne pas se sentir complet. Et c'est vrai que dans les croyances subconscientes, c'est beaucoup véhiculé par ce qu'on a regardé en étant enfant, dans les dessins animés, à la télé, parce que notre inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Hein. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Donc les films, les séries, les dessins animés, c'est quelque chose qui s'imprime dans notre inconscient et on n'a pas de pouvoir dessus. Hein. On va l'imprégner, on va le projeter sur notre réalité. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de faire une pause film et série depuis un an. Et mon rapport à la réalité change. Voilà, petite parenthèse. Mais c'est très intéressant de voir comment j'arrête de fantasmer ma vie. Et ça, en amour aussi, je pense que c'est hyper important de cesser de fantasmer l'amour, le vrai, le véritable. Et en fait, ça nous fait perdre pied de notre réalité, de la réalité de ce qui est vraiment. Et ça nous empêche d'être dans le moment présent.
C'est exactement ça. Et du coup, on a plein de fausses croyances qu'on ne voyait pas, en fait. On ne s'en rend pas compte, tu vois. Mais le fait de faire une diète aujourd'hui, surtout de la télévision quand même, c'est quelque chose qui permet de rentrer dans un état d'esprit positif, de se remettre en cause, de se remettre en question et de se dire, bah, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre finalement à aller vivre, à aller chercher. Et ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on se dit, bah, est-ce que je ne suis pas bizarre? Est-ce que je ne me plante pas? Est-ce que je ne prends pas une mauvaise décision? tout ce qui sort de l'ordinaire fait peur. Mais j'ai envie de dire que quand on se rend compte qu'on a suivi toutes les règles sociétales, on n'est pas vraiment heureux. Hein. On n'est pas vraiment épanoui. Donc, que ce soit en amour ou dans n'importe quel domaine. Donc voilà, je valide totalement ces notions de nouvel apprentissage finalement, de nouvelle éducation que ce qu'on nous a mis jusqu'à maintenant en tête. Quoi.
Oui, c'est vrai, tu as raison. Parce que moi aussi, je suis passée par la période du désert comme toi. Et je me souviens que les premières remarques que j'avais de la part des gens, c'était « Oh, bah c'est un peu triste quand même. » Oui, sûrement que sur le plan purement physique, c'est triste. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? Qu'est-ce que j'ai avancé dans la connaissance de mon être profond ? Et qu'est-ce que je me sens mieux dans mes relations ? Et en fait, je pense qu'on a peur aussi de sauter le pas parce qu'on a la croyance qu'être seul, c'est être malheureux.
Et on est jugé en conséquence. Tu vois, qu'est-ce que c'est triste ? Tu devrais trouver quelqu'un. Ou alors, si t'es seul, ça veut dire que t'es nul, quoi. Ça veut dire que personne ne veut de toi, quoi. Limite, t'es un paria de la société. Donc, c'est ça qui pose problème. Donc, du coup, on préfère être dans une relation soit toxique, soit négative. Et puis, comme tu disais, on a toujours cette notion quand même de s'y accrocher un petit peu. Faut que j'aille au bout. Ou, pour vous, mesdames, alors j'aime pas faire le genre et non plus, mais là, ça, j'ai entendu des milliers de fois. Il faut vraiment que je le dise aujourd'hui. Il va changer. Ou je vais le faire changer. Mesdames, il ne va pas changer. Si c'est un homme à femme, c'est un homme à femme. Ne vous brûlez pas, il ne faut pas aller se brûler les ailes. Mais voilà, plus sérieusement, en fait, c'est ça. C'est qu'on préfère être dans ce genre de situation parce que bah, c'est fait bien de dire qu'on est en couple. Tu vois, si on est célibataire aujourd'hui, on est vu, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, on est vu un peu comme quelqu'un finalement de pas estimable, entre guillemets. Quoi.
Oui. Alors, à ton avis, d'où viennent nos peurs en amour ? Est-ce qu'elles viendraient de nos parents ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Les peurs en amour, à mon avis, elles vont prendre plusieurs sources. Je pense que l'enfance qu'on a, tu vois, les ancrages et puis aussi les traumatismes, ou on pourrait même parler de blessures du passé, bon, bah, forcément, ça vient de l'éducation qu'on va avoir. L'éducation parentale va forcément jouer. Maintenant, j'ai la sensation, au travers de mes coachings, que la peur va prendre son... va être, comment dire, instaurée vis-à-vis des relations qu'on a eues par le passé. Tu vois, c'est simple, hein, il suffit qu'on ait été trompé une fois pour que cette peur, elle soit tellement... C'est tellement traumatisant, c'est tellement déstabilisant, c'est tellement dur pour soi-même que finalement, cette peur, elle va rester, elle va créer une forme d'ancrage. Donc, je dirais que le rôle des parents, oui, c'est sûr, ça en joue. Le rôle de la société aussi. Donc, je dirais en numéro 2, parents, numéro 3, la société, numéro 1, c'est des expériences perso que l'on va vivre. Les expériences perso sentimentales, bah, elles laissent des ancrages qui vont développer des peurs, mais immédiates, quoi. Et malheureusement, comme on le sait, si on se concentre sur les peurs, bah, elles arrivent, elles se matérialisent et là où on met notre état d'esprit, là où on met nos pensées, bah, on les obtient. Donc, c'est souvent négatif à ce moment-là, quoi.
Ah, merci, tu viens de démontrer tout mon podcast. Je me tue à dire que nous créons notre réalité en fonction de ce que nous pensons et on attire à nous totalement toutes nos vibrations intérieures. Et c'est presque... Alors là, bon, on rentre dans le spirituel, mais pour moi, ça a vraiment une portée presque spirituelle, vibratoire. C'est-à-dire que, tu vois, au mois de d'août, j'ai eu un gros stress par rapport aux finances. Et même la nuit, je serrais les mâchoires tellement j'étais en stress. Et j'ai attiré à moi ce manque d'argent. Tu vois, comme par hasard, le même mois, j'ai mis un institut de beauté que j'avais résilié, qui m'a prélevé par erreur, et mon institut actuel, qui m'avait prélevé 3 fois. Le mois où j'ai stressé pour l'argent. J'ai essayé de changer de paradigme et me dire, ok, on va arrêter de stresser, on va faire confiance à la vie et aux opportunités. Et le mois d'après, non seulement j'ai été remboursée plus que ce que j'avais prévu des prélèvements qui étaient une erreur, mais en plus, j'ai des amis qui m'ont prêté de l'argent. Et là, je me suis dit, wow, la puissance, en fait, du biais de confirmation, en fait, c'est ça, c'est dès qu'on se met en tête quelque chose, je manque d'argent, ou j'ai de l'argent, mais en fait, notre réalité, elle se dessine en fonction de ça. Et ça, c'est prouvé à 2000%.
Bah, tu vois, par rapport à tout ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que moi, je suis quelqu'un de très cartésien, très rationnel, Et je me disais quand même, nos pensées qui vont créer notre quotidien, qui vont créer notre vie, c'est un peu bizarre quand même. Et bah, plus je fais ce métier, plus j'écoute des podcasts, plus je me forme, plus je me rends compte que en fait, notre tout ce qu'on est, en réalité, c'est une source d'énergie. Et donc, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses que l'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu. Et tu vois, moi, la première fois que j'ai vu une énergéticienne, elle me disait « je vois les ondes ». Je me suis dit « mais elle est quand même un petit peu spirituelle, mais elle est sur une autre planète, celle-là ». Et c'est une amie, donc c'est pour ça que je peux en parler comme ça. Et du coup, elle passe ses mains autour de mon corps et elle s'arrête à l'endroit où je me suis blessé au genou. Mais elle ne connaissait pas l'endroit, j'en avais jamais parlé, tu vois. Et je me dis « mais attends, c'est un truc de fou ». Et donc, je suis convaincu qu'en fait, il y a des choses que l'on ne voit pas et des vibrations. Donc, quand on dit « j'ai de l'argent, je suis argent, je suis dans l'abondance », eh ben en fait, on débloque une énergie comme une fréquence radio qui est complètement différente. Et le fait de comprendre ça, bah, c'est une explication scientifique. Donc, toutes les personnes qui sont rationnelles et qui vont écouter ce que tu viens de dire en se disant « ouais, quand même eh », ben en fait, il y a une explication scientifique derrière tout ça. Et ça marche, mais pour tout le monde, dans tous les domaines. Moi, je comprends pas comment il y a des gens qui vont se dire encore « oui, mais pour moi, oui, mais moi, ça marche pas, oui, mais, oui, mais, oui, mais ». Écoutez, franchement, les amis, non, ça fonctionne, c'est vrai. Et ce qu'Analyse vient de transmettre, c'est juste une règle tellement puissante que si on la refuse, en fait, c'est là où on reste toujours ignorant, quoi, de ce qui se passe réellement dans notre vie et de cette fameuse loi de l'attraction, si on peut l'appeler comme ça.
Exactement. Alors, pour revenir aux blessures du passé, pourquoi, selon toi, la rupture amoureuse est-elle une des épreuves les plus difficiles à surmonter ? À chaque fois, on vit un deuil terrible, comme si on avait perdu un proche. À ton avis, pourquoi c'est aussi difficile comme épreuve ?
Bah, pareil, on ne va pas pouvoir lutter contre la science qui dit qu'une rupture sentimentale, c'est comme un deuil d'une personne qu'on aime. C'est-à-dire qu'on aime un parent ou un grand-parent qui part malheureusement. Bah, en fait, c'est la même douleur quand on est quitté par la personne que l'on aime. Donc à ce moment-là, on se dit déjà, c'est quand même, en termes de choc émotionnel, très fort. Pour aussi revenir sur une autre grosse croyance, c'est quand même le domaine qui m'a permis aussi d'arriver là où je suis, c'est que moi, je crois à la reconquête amoureuse. Je crois au fait de récupérer son ex et non pas à se dire, bah, récupérer son ex, c'est comme ravaler son vomi. Mais pour nuancer, je ne crois pas à toutes les reconquêtes. Quand on a été dans une relation toxique, quand on a été dans une situation où l'autre ne change pas, n'évolue pas, ça marche pas. Par contre, en amour, bizarrement, c'est le seul domaine où on n'a pas le droit à l'erreur. Faut qu'on fasse un sans faute. Tu vois, c'est comme si tu vas jouer au bowling, tu dois faire que des strikes, sinon c'est que ça marche pas, t'es nul. C'est compliqué pour moi. Donc, je pense qu'en amour, on évolue quand on vit des coups durs. Donc, je crois à la reconquête. La raison pour laquelle je pense qu'une rupture sentimentale est l'étape la plus difficile pour un être humain, après un deuil ou pendant la même chose qu'un deuil d'un parent ou d'un enfant ou d'une personne qu'on aime, c'est qu'en fait, quand il y a une rupture, tu perds la personne que t'aimes, mais tu perds surtout tout repère. C'est-à-dire que t'as plus les mêmes habitudes, donc tu te sens plus forcément aimé, t'as plus le petit message, le petit appel qui te fait chier quand t'es en couple, mais quand tu l'as plus, bah, il te fait ressentir un énorme manque. Et le deuxième point, et je pense pour moi c'est ça le pire, c'est que tu vis une rupture et en fait ta vie s'arrête. T'as plus de projet. Parce qu'avant t'avais des projets à deux, peut-être à trois, quatre, cinq si vous avez des enfants ou plus. Mais en gros, là, maintenant, tu dois te rebâtir. Donc, non seulement tu dois faire le deuil, et en plus de ça, tu dois repartir avec des nouveaux projets, tu dois repartir avec des nouvelles habitudes. Et sans ça, bah, tu peux sombrer pendant longtemps. Et donc, mon rôle, moi, en tant que coach, c'est d'essayer de faire en sorte que bah, de nombreuses personnes n'aient pas à attendre longtemps, qu'elles puissent se reconstruire des habitudes du moment présent et des projets. Donc, voilà pour répondre un petit peu à ta question.
Et de tomber amoureux de ces projets avant de tomber amoureux de quelqu'un d'autre.
Ouais, effectivement, parce que quand tu tombes amoureux de tes projets, bah, tu te dégages un certain charisme, une certaine assurance, une énergie, des vibrations. Donc, je reviens sur mon mot préféré, tu inspires l'autre au lieu d'avoir besoin de l'autre. Et je pense que ça, bah, en fait, c'est la recette du succès en amour, mais pas que dans n'importe quel domaine professionnel, personnel, etc. Mais si tu es en amour avec toi-même, bah, en fait, tu dépends moins des autres. Donc, tu es forcément plus indépendant, donc capable de te nourrir de ton bonheur personnel.
Yes. Je reviens juste sur ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu avais un petit mot à dire aux femmes et aux hommes, il y a aussi beaucoup d'hommes dans ce cas-là, qui ont le syndrome du sauveur, C'est-à-dire, voilà, moi je sais que ça a été mon cas, encore récemment. Comment on arrive à sortir de ces situations où à chaque fois, en fait, on est attiré, on est follement attiré, en fait, par les parts d'ombre de l'autre. Et on se met vraiment dans cette position, on a trop envie de l'aider, on a envie qu'il aille mieux dans sa vie, qu'il s'inspire lui-même. Voilà, quel serait ton petit mot pour ces personnes-là?
Alors, si tu veux, par rapport à cette dynamique, il y a deux façons de faire. La première, c'est de comprendre ces schémas et ces procédés. Moi, je ne suis pas expert dans ce domaine-là, donc je ne pourrais pas répondre à cette partie. Le deuxième point, ça rejoint l'exercice que je donnais tout à l'heure. Quand on a envie d'aider la personne, quand on est attiré par ses parts d'ombre, quand on a envie de finalement se dire « cette personne-là va changer, va évoluer, j'ai les solutions pour lui permettre et je vois son potentiel », pour moi, je transforme ça en « je m'en fiche de savoir qui il ou elle est, voilà ce que moi je veux recevoir ». Et bizarrement, si tu veux, tu responsabilises la personne que tu as en face de toi, donc tu l'aides. Et c'est un peu cette théorie des sables mouvants, comme moi je le dis, c'est-à-dire tu es dans une situation où tu es attiré par une personne, tu vas vouloir sauver cette personne, mais en fait, tu rentres dans les sables mouvants avec elle. Vous allez tous les deux vous enfoncer. Là, ce que tu fais, c'est que tu dis « je me ressens sur moi, moi je veux être un exemple, moi je vais croquer la vie à pleines dents ». Et donc, c'est comme si je tendais un bâton à cette personne qui est dans les sables mouvants pour l'aider à s'en sortir, mais je ne vais pas aller avec elle ou avec lui dans les sables mouvants parce que ça ne me correspondra pas. Donc, bizarrement, je dirais à toutes les personnes qui ont le syndrome du sauveur que le seul moyen d'en sortir, c'est de se centrer sur qu'est-ce que moi je veux recevoir, qu'est-ce que moi j'ai envie de créer, qu'est-ce que moi je désire vivre. Et il faut combattre en fait cette notion qui nous fait penser qu'on est égoïste, mais en fait, être égoïste, c'est pas mal. Si t'es une belle personne et que t'es égoïste, tu continueras à faire le bien autour de toi. Et donc, c'est le meilleur moyen de sauver l'autre, de ne pas tomber en dépendance ou en tout cas en obsession sur l'autre, et de créer un couple qui sera mais complètement différent et puissant. Donc, tu vois, c'est ça que moi, je vois tous les jours.
Oui, d'ailleurs, le syndrome du sauveur, à la base, s'il est infligé par une blessure dans l'enfance, parentale, j'entends, c'est pas forcément par bonté d'âme ou par altruisme. Bien au contraire, c'est une thérapeute qui me disait qu'en fait, c'est parce que l'enfant se sent en danger, parce que le parent ne va pas bien, psychiquement ou physiquement. Et donc, l'enfant, pour sa propre survie, va vouloir sauver le parent. Donc en fait, on part de base d'un sentiment égoïste, mais qui est nécessaire. Hein. C'est pas du tout pour juger les enfants qui ont le syndrome du sauveur, au contraire. Mais, et donc, c'est peut-être de rediriger, en fait, cet égoïsme dans notre vie amoureuse. Malgré l'amour qu'on peut ressentir pour ces personnes, parce que c'est ça la difficulté quand on est dans le syndrome du sauveur. En fait, on le sait au fond de nous, hein, que c'est pas pour nous, hein, cette relation. Mais on a envie, parce qu'on est terriblement attaché.
Ouais, c'est super intéressant ce que tu transmets. Et je pense que le problème dans tout ça, c'est qu'on s'oublie. Tu vois, quand on est dans le syndrome du sauveur, on s'oublie, on est concentré, absorbé par l'autre. Et l'autre, en fait, il ressent ça. Donc, pourquoi est-ce que moi, je vais changer alors que j'ai déjà toute ton attention? Pas besoin. D'où l'importance de modifier ça.
Yes. Alors, donc, je pose toujours une question en fin de podcast qui est « Penses-tu que nous sommes illimités ?» Mais comme là, on est dans le thème de l'amour, je vais re-questionner. Penses-tu que l'amour peut nous rendre illimités?
L'amour de soi, oui. L'amour de couple, non. Non. Tu vois, je pense qu'il faut remettre ça en place, c'est-à-dire l'amour de soi, oui, ça nous rend illimités. L'amour du couple, non. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas recentré sur soi. Et pour moi, du coup, on arrive à se dominer.
Ok, c'est voilà. Clair, net et précis, à l'image d'Alexandre Cormon. Alex, merci infiniment pour ce podcast. Je pense
merci
que là,
on
en prend de la graine pour nos futures relations amoureuses.
Merci pour l'invitation. Encore désolé parce que je sais que j'ai loupé le créneau de lundi et tu as gentiment accepté de décaler. J'étais pris dans mon esprit avec plein de trucs à faire, mais merci. J'espère que ça vous a aidé. Donc, si vous avez des questions, des besoins, n'hésitez pas. Et c'est quoi? Il faut mettre 5 étoiles sur les podcasts, non? Si je dis pas de bêtises.
C'est ça. Ah oui, il faudrait que tu en partages aussi.
Je vais partager à fond, bien sûr.
Avec plaisir. Merci Alex.
Merci à toi, Anaïs. À très bientôt.
Après avoir écouté cet épisode, peut-être que comme moi, vous remettez certaines choses en question. N'hésitez pas à laisser des commentaires à ce sujet sur les réseaux ou directement sur votre plateforme d'écoute. Les destins flottants pour aujourd'hui, c'est fini. Abonnez-vous afin de retrouver le prochain épisode. À bientôt!